très heureux de vous retrouver pour ce voyage hebdomadaire à travers les mots et les pages. Merci d'avoir choisi d'écouter Magique 9 à l'heure de votre émission préférée Livre 9, l'émission qui vous invite et vous aide à mettre le livre au cœur de votre quotidien, parce qu'on sait que le besoin de lire, tout comme le besoin de faire l'amour, est un plaisir capable de nourrir le corps et l'esprit. À la technique, l'infatigable Willems Joseph. La présentation est assurée par Jolemson Petit Frère, sans oublier mes compagnons Hubert Charles et Myrline Pierre. Bonsoir Hubert.
Bonsoir Jolemson. Bonsoir à tous les auditeurs de Magique.
Bonsoir Myrline Pierre.
Bonsoir Petit Frère. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Livre 9.
Comme vous le savez, tous les dimanches à pareille heure, c'est Livre 9 qui rentre chez vous sur Magique 9, le 100.9. Je rappelle que Livre 9 est une courtoisie de la radio Magique 9 et de la revue Legs et Littérature. Sans plus tarder, je vais céder la place à Hubert Charles qui va nous apporter la rubrique Actu Livre pour toutes les dernières actualités sur le livre.
Eh bien, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et puis, hier, c'était la journée internationale de la femme. Eh bien, Legs et Littérature et Livre Neuf ont décidé d'étendre cette journée sur tout un mois. Et toute une série d'activités sont prévues du 4 au 30 mars 2014. Eh bien, le 4 mars dernier, le dernier numéro de la revue Legs et Littérature, consacré aux écritures féminines, a été présenté par Caroline Schred, directrice de la section critique pour ce numéro au Mount Holyoke College dans le Massachusetts. Eh bien, le 9 mars 2014, c'était au Five College Women Studies Research Center qu'il a été présenté. Eh bien, une façon de marquer la veille de la Journée internationale de la femme. Ce samedi 15 mars, le numéro et le dernier numéro de Legs et Littérature sera lancé officiellement en Haïti. Legs Édition en profitera pour lancer sa collection Voix féminine avec la réédition de Le sexe mythique, roman écrit par Nadine Magloire et publié à Port-au-Prince en 1975. Eh bien, ce lancement aura lieu à la DNL à Paco le samedi 15 mars 2014 à partir de 11h à M. Invité spécial Evelyne Trouillot et Yannick Lainz. Toujours dans le cadre du mois de la femme, cette fois-ci, Livre 9 reçoit 4 femmes écrivains qui viendront parler de la condition des femmes écrivains et artistes en Haïti. Eh bien, le dimanche 16 mars 2014, nous recevrons Yannick Lainz à Livre 9. Et le 23 mars, Evelyne Trouillot sera notre invitée. Ensuite, le 30 mars 2014, la romancière Kathleen Mars viendra nous entretenir de son œuvre. Alors, petite suggestion de lecture. Le saviez-vous, nous sommes où nous serions, rien n'est précise, rien n'est précis, à l'année du centenaire de naissance de Luman Casimir. Eh bien, 1914, selon le livre Les Grandes Dames de la musique haïtienne, eh bien, je profite pour vous suggérer ce livre, pourquoi pas. Et ensuite, un petit livre très intéressant, cette fois-ci pour les enfants, La fille à la guitare, Yon fille, Yon guitare, Yon voix, d'Evelyne Trouillot. Eh bien, voilà pour Actu Livre. Je reste bien évidemment avec vous pour la suite.
Merci Hubert Charles. Bien, comme vous le savez, chaque semaine, Livre 9 vous apporte le livre de la semaine, la rubrique qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les grandes œuvres de la littérature haïtienne, disons de la littérature mondiale.
une rubrique qui se propose également de vous aider dans vos choix de lecture. Mais place à présent à Muriel Pierre pour la rubrique Le Livre de la Semaine. Bonsoir Muriel.
Bonsoir Petit Frère, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Livre Neuf. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, célébrée chaque année le 8 mars, la rubrique Le Livre de la Semaine va porter un regard particulier sur les femmes écrivaines haïtiennes pendant tout le mois de mars. C'est une façon à nous de les honorer et de les replacer au cœur de notre société. Ainsi, pour commencer notre série de présentations, j'ai choisi pour vous une auteure haïtienne dont on ne parle pas du tout ou pas assez dans la critique haïtienne. Il s'agit de Nadine Magloire. Nadine Magloire est née en 1932 à Port-au-Prince. Elle est la fille du journaliste haïtien Jean Magloire et de la compositrice Carmen Boire, sœur du très grand poète haïtien Carl Boire. Elle a vécu entre l'Europe et l'Amérique. Elle vit actuellement au Québec. En fait, Nadine Magloire a écrit des romans comme « Le mal de vivre » publié en 1968, « Autopsie in vivo, le sexe mythique » publié en 1975, Autopsie in vivo, publié en 2009 et 2010. Et maintenant, je vais vous faire la présentation du roman Le sexe mythique. Ce dernier a été publié aux éditions du Verso en 1975 sous le titre original de Autopsie in vivo, le sexe mythique et réédité cette année par Leg Edition dans la collection Voix féminine. Le sexe mythique est un roman de 84 pages qui raconte l'histoire d'une jeune femme libre, d'esprit et indépendante. Elle s'appelle Annie. Elle vit seule dans une pension familiale. Elle a pour amant Yves et pour amoureux Franz. Yves est un homme de grande culture mais insouciant. Tandis que Franz est un homme marié avec deux enfants à sa charge, mais qui l'aime et veut la donner tout le bonheur possible. Femme libérée, émancipée, Annie décidera de vivre pleinement sa vie en faisant fi de toutes les règles et conventions sociales. Si avec Franz, elle se sent comblée, cependant elle se doute de la suite de cette relation vu son engagement à sa femme. Entre lui et Yves, elle doit choisir, mais comment? Elle sait déjà que ce dernier, à savoir Yves, l'interlope, n'est pas en mesure de satisfaire ses instincts sexuels. En effet, Le sexe mythique est un roman osé, subversive et remet en question l'ordre social. Dans ce livre, l'auteur Nadine Magloire nous invite à voir autrement les rapports entre l'homme et la femme. Annie est la figure d'une jeune fille rangée ou même dérangée. C'est la Colette de l'éducation sentimentale, Johnson ou Simone de Beauvoir qui entend finir avec les rapports à sens unique, entend par là les rapports de maître à esclave, entre les deux sexes dans les relations amoureuses. Annie est cette femme qui prend les décisions qui sortent du traditionnalisme et s'impose pleinement comme être. Si Nadine Magloire doit être considérée comme l'auteur qui sort du canevas de la pudeur romanesque, de la littérature haïtienne, la grande question est de savoir s'il pouvait exister une femme aussi libre qu'Annie au temps de la dictature. Enfin, c'est ici s'achève le livre de la semaine. Mais avant, je vous invite à découvrir, à lire et à relire Le sexe mythique de Nadine Magloire paru dans la collection de Voix féminines de Leg Edition dans un format très attrayant. Rendez-vous dimanche prochain pour continuer notre série de présentations sur les femmes écrivaines haïtiennes.
Merci Myrline Pierre. Je rappelle que le livre de Nadine Magloire sera disponible en Haïti et à partir du samedi 15 mars prochain lors du lancement du troisième numéro de la revue Leg et Littérature. Le sexe mythique, un roman qui a été publié pour la première fois et aux éditions du Verso en 1975, et sous le titre original Autopsie in vivo, le sexe mythique. Eh bien, Leg Edition
dans sa politique de remettre à l'ordre du jour, de remettre dans l'actualité des écrivains, et surtout des femmes écrivains, oubliées, négligées de la littérature haïtienne, qui sont ignorées, dont on ne parle presque pas ou pas du tout. Eh bien, dans cette collection, Voix féminine a réédité Le sexe mythique de Nadine Magloire. À suivre, puisque certainement il va y avoir d'autres femmes écrivaines à être publiées dans cette collection. Voix féminine. L'art ne reproduit pas le visible. Il rend visible. Et le domaine graphique, de par sa nature même, passe à bon droit aisément à l'abstraction, écrit le peintre allemand Paul Klee dans le troisième chapitre, Credo du créateur, de son livre Théorie de l'art moderne. Autrement dit, à l'image de la création, c'est un modèle, l'art est à l'image de la création, c'est un symbole. Tout comme le monde terrestre est aux yeux des spiritualistes un symbole du cosmos. En référence au peintre russe et théoricien de l'art, Vassili Kandinsky, qui dit dans l'introduction de son livre du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, que toute œuvre d'art est l'enfant de son temps et bien souvent la mère de nos sentiments. Au fait, qu'est-ce que l'art ? Quelle est l'origine de l'œuvre d'art ? Quelle est la fonction de la peinture contemporaine ? Quels sont les pouvoirs de la couleur, des lignes, de l'espace et des formes ? Et comment tous ces éléments, en d'autres termes, la couleur, les lignes, l'espace, les formes, expriment-ils notre conscience nouvelle de nous-mêmes et de l'univers ? Née à Port-au-Prince, galeriste, historienne de l'art et critique d'art, Marie-Alice Théard est animatrice et commissaire d'exposition en Festival Arts, la galerie d'art qu'elle dirige depuis 20 ans et plus. Membre de l'Association internationale des critiques d'art, elle est aussi poète et nouvelliste. Son dernier livre sur la peinture haïtienne, Présence féminine dans l'art haïtien, se veut un véritable hommage à toutes ces peintres qu'on ignore ou dont on ne parle pas. Bonsoir Marie-Alice Théard.
Honneur.
C'est avec un grand honneur que nous t'accueillons à Livre-Honneur ce soir.
Le plaisir est mien, surtout que l'on va parler de choses intéressantes. On parle d'art. C'est notre seule carte de visite actuellement en Haïti. Et la meilleure.
Une question toute bête démarrer notre cause. Est-ce que tu peux nous dire, Marie-Alice Théard, pour les auditeurs et auditrices de Livre Neuf, c'est quoi l'art ?
Et l'art, c'est peut-être un débordement de l'âme. C'est cette pulsion que nous n'arrivons pas à freindre pour dire que on va pouvoir diriger, analyser, appréhender. C'est cette émotion qui nous dépasse. C'est cette folie qui, quand elle devient nôtre, est aussi la folie du regardeur. Car celui-là qui contemple une œuvre d'art ne fait que se regarder dans un miroir. Car chacun a une perception différente. Tantôt, je vous ai entendu parler d'abstraction en art. Je ne crois pas que l'abstraction en art existe. Je suis certaine que l'émotion et l'expression de soi existe en art. Quand on prend un peintre comme Franck Étienne, que l'on dit abstrait, il est loin de l'être. Chaque tache envoyée sur une toile par Franck Étienne est une expression de l'âme de Franck Étienne. Et là, vous avez dit tantôt que j'ai sorti un livre sur la présence féminine dans l'art haïtien. Je l'ai fait avec plaisir et ça a été un honneur pour moi de le faire car les femmes dans l'art en Haïti, surtout dans l'art plastique, ont été très négligées. on n'a pas beaucoup parlé d'elles. Nombreuses sont celles qui sont très connues à l'étranger et qui ne le sont pas chez nous. Quand on cite leur nom, les gens vous disent, mais est-ce que c'est un nouveau virus? Qu'est-ce que c'est? Alors là, ça m'a permis de me pencher sur cette partie occulte de l'expression de l'art chez nous. Car en fait, si nous devons parler de l'art au féminin, il nous faut remonter au 19e siècle. Et déjà au 19e siècle, les femmes étaient très actives et elles étaient déjà des révoltées, tout comme Nadine Malgloire, de qui vous avez parlé tantôt. Et je fais une parenthèse pour dire que Nadine Malgloire est avec Franck Étienne, les deux révoltés de la littérature contemporaine haïtienne, chacun dans leur domaine. Quand vous avez négligé de mentionner l'érudition de Nadine Malgloire, vous avez négligé de mentionner la profondeur des textes de Nadine Malgloire. Et tantôt vous avez demandé, est-ce qu'une femme pouvait avoir cette liberté citée dans le roman de Nadine Malgloire à l'époque de la dictature? Je répondrai que oui, que c'était une évidence, et même avant Nadine Malgloire, les femmes haïtiennes ont toujours été non pas seulement des révoltées, mais des avant-gardistes. Car quand on regarde l'histoire d'un peuple, et que dans cette histoire, on voit une mère prendre la vie de son enfant, afin que son enfant ne connaisse pas les cruautés et les vicissitudes de la colonisation, on se dit que ce sont des femmes avant-gardistes, car c'est un geste d'avant-garde. Car il ne faut pas considérer l'avant-gardisme sur le plan érotique. L'érotisme, c'est quoi? C'est juste un moment. Ce n'est pas un état d'âme qui va durer. Puisque Nadine Malgloire, c'est cette femme-là qui a osé braver tout ce que nous avions chez nous comme restriction. Ben, oui, tabou, oui, restriction aussi, et aussi comme hypocrisie d'une société.
Donc elle a su briser tous les tabous et les
il y a même eu une forme d'agressivité, je crois, dans ces textes. Mais ce qui m'a plu particulièrement chez Nadine Malgloire, surtout dans Le Mal de Vivre, qu'il faudra peut-être rééditer, car Le Mal de Vivre s'adresse à toutes les femmes. Et ce sont des textes qui nous permettent d'être en contact avec cette vaste culture féminine haïtienne. Car de plus en plus chez nous, nous allons vers la facilité. Nous donnons des prix à des livres qui sont mal écrits. Nous donnons des prix à des gens qui n'ont aucune maîtrise de la langue. Et cela me navre. Car petite fille déjà, j'étais exposée à une bibliothèque de mon père où je lisais des gens comme Nadine Malgloire. Et c'était des références. Mais actuellement, où sont nos références? Qu'avons-nous fait de nos références?
Eh bien,
mais là n'est pas mon propos aujourd'hui. Je suis là pour parler de femmes et d'art, de la présence féminine dans l'art. Donc
voilà,
là,
on revient à la question de départ. On va parler de présence féminine dans l'art haïtien. Donc l'émission sur Nadine Malgloire, Weber Charles, certainement ce sera pour une autre intention.
Pour bientôt, hein? Oui.
En tout cas, je vous tire mon chapeau d'avoir pensé à faire revivre un cerveau aussi bien garni
que celui de
Nadine Malgloire.
Voilà. Au fait, tout à l'heure, tu disais que tu n'es pas sûr que quand on est dans l'art, on est dans l'abstraction.
On est dans l'art, on n'est jamais dans l'abstraction.
Oui, mais est-ce que l'art, c'est de la réalité ou est-ce que l'art...
L'art, c'est la révolte. L'art, c'est le déni des contraintes qu'on nous impose. L'art, c'est le déni des souffrances que nous connaissons. Il ne faut pas oublier...
Quand on crée, ça fait partie de la création. Quand on crée, c'est à partir... c'est de l'abstrait. Hein.
On ne crée pas à partir d'eux. La création, c'est on subit la création. Aucun créateur n'est maître de sa créativité. Aucun créateur n'est maître de son imaginaire. Si vous devenez maître de votre imaginaire, vous êtes un très bon technicien, mais vous n'êtes pas un créateur.
Alors, recruter une personne artiste.
Absolument.
Tu parlais du 19e siècle tout à l'heure, le 19e siècle haïtien. Si on revient un petit peu au 19e siècle français, il y a Victor Hugo qui dit que l'art est à l'homme ce que la nature est à Dieu.
Oui, mais il ne faut pas oublier que Victor Hugo croyait en la réincarnation. Donc, Victor Hugo pensait que ce souvenir, ce ressouvenir, refaire et se refaire, c'était parfaire ce que l'on avait justement reçu en cadeau. On arrivait à Dieu, certes, mais on devait évoluer avant d'arriver à Dieu. Donc, on revenait. Ce que nous appelons le don, que ce soit chez Mozart, que ce soit chez Balzac ou chez un autre créateur tel que Bernard Roy, plus près de nous, c'est la créativité, le don donné, la grâce offerte par le divin. Nul créateur ne peut se passer de cette assistance divine. Vous me demanderez, mais que faites-vous des athées? Mais qu'est-ce que c'est qu'un athée? C'est celui-là qui veut renoncer, qui veut dire qu'il ne croit pas. Donc, il y a une réaction à quelque chose qui existe déjà.
Weber Charles, tu as une question? Et puisque Marie-Alice tout à l'heure a parlé de la dictature, des femmes qui, par exemple, Nadine Magloire qui écrit sur la dictature. Et j'aimerais vous demander, Marie-Alice, est-ce que ceci est également la même chose pour une femme qui peint? Est-ce que la peinture, parce qu'on sait que sous Boyer, sous
Boyer,
oui, voilà.
Mais sous Boyer, si on n'est pas en situation, on ne peut pas créer.
Oui, mais sous Boyer, et d'ailleurs vous l'avez dit dans le livre, les femmes ne pouvaient pas bénéficier de bourses pour aller se spécialiser en art.
Oui.
Et puis, et je me demande, est-ce que les enjeux sont les mêmes pour les femmes écrivaines et les femmes artistes?
Boyer a cru dans l'art, et Boyer a cru dans la survie de l'art. Mais il ne faut pas oublier que chez nous, l'homme était censé être public et la femme devait s'occuper des affaires de la maison. Alors, une femme qui veut être à l'égal de l'homme et qui voulait être publique, elle était très mal vue. Et ce n'était pas seulement en Haïti, en Europe aussi, c'était pareil. Les femmes écrivaient sous des pseudonymes, puisqu'on a parlé de littérature tantôt. Toutes les femmes de la génération de George Sand ont utilisé des pseudonymes pour écrire. George Sand n'était pas la seule. Mais je veux bien rester chez moi, je veux rester en Haïti. Et des femmes, pendant l'époque indigéniste, ont pris position. Elles ont décidé d'aller public, malgré cette contrainte économique qui voulait qu'elles ne seraient jamais aidées ni subventionnées par l'État ou le gouvernement, alors que les hommes l'étaient. C'était là votre question.
Oui, justement, c'était ça. Mais aujourd'hui, on assiste aujourd'hui à une floraison d'artistes femmes, bien que avant, et vous l'avez dit avant, et on n'avait pas connu toutes ces artistes.
Il y a toujours une floraison d'artistes femmes. Il ne faut pas oublier qu'en Haïti, beaucoup d'œuvres d'art sont restées dans les tiroirs. Et là, je parle d'art plastique, je parle de littérature, je parle de musique. Ces œuvres, parce qu'elles étaient des œuvres féminines, elles sont restées dans des tiroirs. Je connais des femmes auteurs qui ont des textes très valables. Et parce qu'il y a le veto du mari qui empêche qu'elles deviennent publiques, eh bien ces choses-là restent dans les tiroirs ou sous le lit. Donc je ne veux pas que l'on me dise qu'il y a actuellement une flopée d'artistes qui se font connaître. Non, je dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent la liberté ou qui ont l'audace d'aller public. Et quand il s'agit d'art plastique, par exemple, là, à ma galerie, elles sont une centaine de femmes à exposer, pas parce que je suis féministe. Sortir un livre pareil est pour moi un acte féministe, oui. Car en fait, quand j'ai voulu avoir des sponsors pour sortir mon livre, ça n'a pas été possible. Ma chance a été de rencontrer M. Peter Frisch, qui a cru en ce projet et qui a voulu nous prêter main forte, mais il a été le seul.
Les arts sont indispensables à la formation d'un peuple.
Oui, c'est Boyer qui dit ça.
Boyer, c'est ce qu'on dit. Oui. Et dans l'épitaphe de présence féminine dans l'art haïtien, dans l'épigraphe, disons, l'épigraphe de présence féminine dans l'art haïtien. Au fait, ce livre, Marialiste et art, présence féminine dans l'art haïtien, je suppose que c'est un livre qui est arrivé à point nommé parce qu'il est appelé à combler un vide immense dans la critique d'art en Haïti, en particulier en ce qui a trait aux femmes peintres. Mais pourquoi
il n'y a pas seulement des peintres, il y a des femmes sculpteurs.
Disons, des femmes artistes.
Artistes.
En fait, la question est pourquoi parler de présence féminine dans l'art haïtien. Est-ce une façon de dire que l'art est sexué?
Non, je ne pense pas que l'on puisse parler de sexe quand il est question de création. Peu importe la branche à laquelle on fait allusion. Un créateur est tout simplement une âme en situation. Il n'est pas question d'être homme ou femme. D'ailleurs, il y a pas mal d'œuvres plastiques créées par des femmes pourraient être des œuvres faites par des hommes.
Donc, l'art n'a pas de sexe.
Cependant, non, chez nous, on a tendance à se dire que les œuvres plastiques fortes sont produites par des hommes. Un sculpteur comme Ludovic Bouze est tout de suite reconnu. Un sculpteur comme Marie Toudupou, il faut vraiment que l'on ait la pièce en face de soi pour admettre que ceci a été fait par une femme.
Les œuvres fortes sont produites.
Parce que les œuvres fortes sont censées être produites par des hommes. Mais c'est faux. Marie Toudupou est allée très loin. Que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la sculpture, elle est allée très loin. Donc on ne peut pas dire face à une œuvre de Marie Toudupou que c'est une femme. Et pourtant, elle est l'une de nos artistes les plus valables. Et ça, je ne fais pas allusion au sexe. Je parle d'artistes. Si on parle de l'art contemporain haïtien, Marie Toudupou est incontournable et c'est une femme.
Voilà. Marine Pierre.
Marthe, on est en train de revendiquer une littérature féminine, une écriture féminine. Est-ce que vous pensez qu'un art féminin, est-ce que vous pensez que qu'on essaie de revendiquer un art féminin.
Ça voudrait dire qu'il y aurait une émotion féminine à travers les écrits. Oui, parce qu'il m'est arrivé de lire des écrivains qui ont utilisé des pseudonymes féminins. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une spontanéité féminine que l'on ne retrouve peut-être pas chez les hommes. Ce serait peut-être la seule différence. Et quand on parle de littérature féminine en Haïti, je dirais tout simplement que les femmes qui écrivent chez nous, elles ont la vigueur de l'homme, elles ont la technique, la maîtrise technique de l'homme, et elles ont une spontanéité ou peut-être un certain lyrisme en plus. Mais là encore, c'est discutable. Car quand je lis Lionel Trouillot, je me dis que c'est de la poésie. Et je vais lire Evelyne Trouillot, je retrouve la même poésie. Est-ce que elle est, parce qu'elle est femme, elle est plus lyrique que Lionel?
Eh bien, et Matt, j'ai bien envie de parler de marché. Je ne sais pas, moi, vous êtes mieux placé, vous êtes bien placé pour en parler également, puisque vous êtes galeriste.
De marché de l'art.
De marché de l'art. Est-ce que les femmes vendent et comme les hommes, tout comme
en fait, ma galerie existe depuis 31 ans. Mm-hmm. Je fête cette année mes 31 ans.
j'ai débuté avec 3 artistes hommes. Et là, ils sont 231 chez moi, dont une centaine de femmes. Je dirais que les œuvres se vendent parce qu'elles sont valables. Elles se vendent parce qu'elles méritent le détour, mais pas parce qu'elles sont faites par un homme ou par une femme. Ceci ne va jamais influencer le choix du regardeur.
Mais s'il y a une émotion...
Jamais. Mais est-ce qu'il y a un marché de l'art? Je suis heureuse que vous me posiez cette question, parce que chez nous, on parle beaucoup d'artisanat. Il est question d'artisanat partout. Et là, on aura l'artisanat au Mall Saint-Nicolas. Mais qu'est-ce que vous faites de nos artistes plasticiens? L'artisanat, c'est une répétition d'un sujet offert, tandis que l'art, c'est une œuvre originale qui n'est pas répétée. Autrefois, je dis autrefois, jusqu'en 1986, on parlait de la peinture haïtienne. Eh bien, nous avons pris l'habitude d'occulter cette affaire-là, peinture haïtienne, jusqu'à ne plus en parler. Et ceci nous vient des Haïtiens, pas des étrangers. Au point que Sotheby's et Christie's n'ont plus une section haïtienne. On l'a enlevé. Donc, si nous ne défendons pas cet art haïtien, où irons-nous? Autrefois, on avait cette fameuse peinture du Cap haïtien avec l'école de Philomé Aubin. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment pouvons-nous nous arrêter à l'artisanat et oublier l'art? Qu'est-ce qui nous arrive? Nous quitter petit en dedans et qu'on voit petit dehors?
Bien, on
peut avoir les deux, non?
Oui, on peut avoir les deux. On va revenir, Marie-Alice Théard. On va observer la pause demi avec une chanson de Benjamin Earl Nelson, dit Ben A. King. Don't play that song, qui est extrait et des 100 plus grands standards de la soul. Et Ben A. King qui va nous apporter Don't play that song. discussion d'ensemble. Ce n'est pas une œuvre narrative. S'il est facile de filer le conte à la tombée de la nuit sur la toile, un détail va souvent symboliser le message. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, peindre n'est pas un métier de femme. Il faut l'arrivée de Madame Virginio Lecomte à la fin de ce siècle pour que la jante féminine commence à paraître dans le cadre artistique haïtien en tant qu'artiste. Oui, et Matt, pour revenir à la présence féminine dans l'art haïtien que je viens de lire, et un extrait, et vous dites que les femmes ont arrivé un peu tard. Hein, dans l'art, il faut attendre Madame Vergniaud pour que la peinture haïtienne soit à l'honneur. Qu'est-ce qui a caractérisé cette, ou encore si on peut parler, la naissance, hein, qu'est-ce qui est à la base de cette naissance de l'art féminin, hein, haïtien, si je veux.
L'art haïtien est devenu public vers 1810, donc c'est pas si loin. Et on a commencé à parler d'haïtianité seulement vers 1837 avec Émile Nault. Donc là, les femmes sont arrivées dans le momentum, si vous voulez. Vous n'êtes pas d'accord?
Bien sûr. Si on parle d'art haïtien et puis on est...
Il faut dire que chez nous, étant donné qu'on a eu beaucoup d'incendies et on a perdu beaucoup du patrimoine, il n'a pas été recensé d'œuvres avant cette période-là. Car vous avez dû remarquer qu'à la première page de mon livre, j'ai un tableau, une illustration de l'Orvania Lagojanis. Et là, c'est l'œuvre la plus ancienne, l'œuvre féminine la plus ancienne que nous avons pu recenser. S'il y en a eu d'autres dans les familles, on les a gardées sous cette privée. Mais il ne faut pas oublier que pendant la période de la colonisation, il y avait les nègres à talent. Est-ce que parmi ces nègres-là, il y avait aussi des femmes? Je l'ignore. C'était des portraitistes. Je ne peux pas dire qu'il y avait des femmes. Donc je ne peux parler que de ce qui a été recensé jusqu'ici. Okay.
D'accord. Il y a cette question d'un auditeur. Que je te fais là et maintenant, j'essaie de reformuler les maths. Est-ce que, d'après vous, Marie Alistéa, vous pensez qu'il existe un art haïtien?
Mais c'est évident qu'il existe un art haïtien, puisque il existe une émotion bien haïtienne. On est conditionné par le milieu dans lequel on vit, on est conditionné par son éducation, on est conditionné par ses expériences de vie. Et je dirais que l'art haïtien poursuit, je crois bien le terme, poursuit les peintres haïtiens, les artistes haïtiens qui laissent le pays pour aller vivre à l'étranger. On prend un peintre comme Luckner Lazare qui a été vivre en Europe puis aux États-Unis. Il a quand même gardé son bleu Lazare, qui était un bleu qui avait une expression tout à fait haïtienne. Et oui, parce qu'on est conditionné aussi par les traditions, on est conditionné par les prérequis. On ne peut pas cesser d'être haïtien parce qu'on vit ailleurs. On peut avoir des influences, étant donné qu'on est ouvert maintenant au monde extérieur. On parle beaucoup de la globalisation, de l'universalité avec la télévision, le net, Facebook et tous les réseaux sociaux. On est exposé à un art qui vient de l'Occident, de l'Asie et d'ailleurs. Mais il y a quand même une émotion haïtienne qui va être véhiculée à travers les œuvres d'art, que ce soit la littérature, la danse, la musique, la peinture. Il y aura cette âme haïtienne. De même que si je dois aller vers Nadine Magloire, quand un haïtien fait l'amour et qu'il y a un orgasme, on sait que c'est un haïtien qui jouit, on sait que c'est une haïtienne.
Mais comment, on le sait.
On revient toujours vers l'alma mater. Les grands chagrins et les grandes joies, on les vit dans... sa langue maternelle.
Là, tu me fais penser à Maurice Sixto.
Oh, absolument, je suis pour. Je suis pour. Mac va parler français, Mac va maîtriser la langue française, Mac a publié 18 livres français, mais le Mac, c'est où, chérie?
La fripe, nous réserve tout. Présence féminine dans l'art haïtien, c'est en fait pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Je veux que c'est toi, en fait, c'est vous qui le dites. Ça fait combien de femmes déjà là-dedans?
Dans ce livre, il y a 103 femmes présentes. Ceci ne veut pas dire qu'il existe seulement 103 femmes plasticiennes valables. Ça, je veux vraiment le souligner parce qu'il y a des femmes qu'on n'a pas pu joindre, malheureusement. Et qui sont des femmes très valables en tant que plasticienne, parce que pour publier, il m'a fallu la permission de chacune. Et certaines ne sont pas présentes dans le livre, et ceci me permet de faire appel à celles qui voudraient participer à la deuxième réédition de ce livre-là. Parce que ce que j'ai là, c'est la deuxième parution, donc première réédition, il y aura certainement une autre. Donc, je demande à ces femmes-là de bien vouloir rentrer en contact avec moi pour me permettre d'intégrer leurs œuvres et leurs CV dans la prochaine présence féminine dans l'art haïtien.
Il y a d'anciennes, des peintres reconnus et, en fait, des femmes peintres reconnues là-dedans. Tu as parlé de Maïté Dupou. Il y a aussi de nouvelles voix, de nouvelles peintres.
Oui, mais toutes celles qui sont là. Oui, mais il n'y a pas de favoritisme ici. Absolument pas. Toutes les femmes qui sont présentes dans ce livre sont des femmes dont le travail mérite le détour. Ce sont des femmes qui peuvent avoir leurs œuvres exposées dans un musée, quel que soit le pays du monde, sans qu'Haïti ait à rougir.
Est-ce que ces femmes-là...
Ce n'est pas une fratrie.
Ces femmes-là, et Maria Listea, et qu'on retrouve dans les présences féminines dans l'art haïtien, elles sont toutes exposées à la galerie...
Non. Elles ne sont pas toutes exposées à la galerie Mido, Festival Art.
Lilian d'Artignave, Magda Magloire...
Luis Tournier, Nicole d'Orsely...
Micheline Brière, André Michel Voltaire... Michel Voltaire Massin, c'est ça?
Oui.
Ah, c'est elle?
Oui. Elle est pluridisciplinaire.
Oui.
Poète, écrivaine, oui, femme de théâtre.
Elle est connue comme écrivaine. Odila Tortue. Mais il y a. Vous avez bien qu'il y a une question, non?
Oui, mais je sais que ce choix, le choix de regrouper les œuvres des femmes est un peu difficile, tout comme le choix d'organiser une exposition. J'ai envie de demander à Marie-Alice, est-ce que le fait d'être une femme ne favorise pas, et encore le flair féminin, ce qu'on peut appeler comme ça, ne favorise pas le jugement d'une galeriste pour organiser les expositions? Est-ce que des fois, et vous ne vous laissez pas aller à votre, je ne veux pas tomber dans les clichés de toute façon, à votre façon d'être femme, pour ne pas dire à votre féminité, pour choisir.
Pour faire une exposition. Je vais aller plus loin. Tous ceux qui se trouvent en exposition à ma galerie se trouvent là parce que ce sont des œuvres qui me plaisent, car ce sont des œuvres avec lesquelles je dois vivre. Je passe beaucoup plus d'heures à la galerie que chez moi. Donc je ne m'impose pas des choix qui ne me conviennent guère, parce que cela me permettrait de gagner de l'argent. Je gagne ma vie autrement. La galerie, elle est là pour satisfaire mes besoins émotionnels, à savoir que je me sente bien dans un environnement harmonieux selon mes critères à moi. Donc j'expose ce qui me plaît. Cependant, quand je sors un livre qui est intitulé « Présence féminine dans l'art haïtien », je ne mets pas ce qui me plaît, je mets ce qui est valable, ce qui répond aux critères qui me permettent de dire que cet artiste-là est un artiste qui maîtrise la technique de l'art plastique, que j'aime ou que je n'aime pas. que cet artiste expose chez moi ou pas, que j'aime sa personnalité ou pas. Ça, c'est un travail technique qui n'a rien à voir avec mes émotions. Mais si vous venez acheter chez moi, vous achetez quelque chose qui me plaît.
Bien sûr, bien sûr. Si on vient maintenant à la galerie, au Festival Arts, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du Festival Arts, hein? Je sais que ça remonte à
83. J'ai eu ma première exposition en novembre 83 avec Gontran du Rocher. Et Festival Arts, c'est une galerie qui est arrangée comme une maison privée. On n'a pas l'impression que c'est un endroit commercial. À Festival, on ne vous propose pas d'acheter. Vous achetez si vous voulez. On vous offre un café, on blague, on parle de tout et de rien. On a le verbe gros et on se laisse aller à parler littérature, musique, etc. Et chaque année, Festival se fait un devoir de découvrir un talent. Et grâce à Dieu, il semble que j'ai l'œil, car la majorité des talents découverts par Festival, dont Mario Benjamin, deviennent des maîtres incontestés de l'art contemporain. Donc là, je suis très fière, parce que c'est un travail qui demande un investissement émotionnel et important. Et c'est une guerre des nerfs aussi. Alors je dis souvent que je suis une folle qui dirige 231 fous. Les gens arrivent et disent « Ah, c'est très beau chez vous, c'est agréable. » Non. 24 sur 24, on travaille. Quand les artistes vous dérangent le jour et la nuit. Et ils sont toujours émotionnellement dépendants du galeriste. Mais il y a beaucoup de bonheur à avoir une galerie d'art. Je ne me vois pas faisant autre chose.
Et pour les expositions, comment tu t'y prennes?
Pour exposer chez moi, il faut attendre 2 ans. Le temps est long. Car il faut d'abord que les œuvres soient prêtes, il faut qu'elles soient valables, et il faut que ce soit des œuvres qui s'adressent à un public étranger et haïtien.
Oui, et Marie-Alice, on sait que tu es également romancière, et poétesse également. Est-ce que la poésie est pour quelque chose dans tes choix? Le sentiment...
Je pense que avant tout ça, je suis une âme qui vit sous le réverbère de Dieu. Et je vais bientôt sortir un roman qui s'appelle Star et qui se situe dans le 19e siècle haïtien, parce que justement la période de Boyer est très peu connue. Et je me dis que nous avons beaucoup de problèmes avec Saint-Domingue parce que nous ne connaissons pas vraiment l'histoire. Il y a très peu d'Haïtiens à savoir que Boyer avait refusé les clés de Saint-Domingue quand Nounès les lui a présentées sur un plateau d'argent. Et je suis aussi désolée de voir que certaines œuvres littéraires d'époque n'ont pas été rééditées. Quand je prends un écrivain comme de l'Espinasse, qui a beaucoup écrit sur le 19e siècle haïtien, on ne le connaît pas. On ne le connaît plus. Ce sont des écrivains qui auraient dû être réédités, parce que quand j'ai voulu écrire mon livre, j'ai dû demander à Michel-Philippe Lerbourg de me faire des photocopies de ces livres-là à la Bibliothèque de France à Paris. Et là encore, nous n'avons pas de bibliothèque chez nous que l'on peut visiter. Il y a très peu de bibliothèques. Nous n'avons pas de mémoire écrite. C'est malheureux.
Il y a la Bibliothèque nationale, il y a la Bibliothèque des Pères du Saint-Esprit.
Il y avait aussi la Bibliothèque du Père Adrien.
Oui, qui constitue... Oui,
il y avait la Bibliothèque Mangonaise, il y avait la Bibliothèque Jean Fouchard.
Mais tu dis il y avait...
Oui. Oui, oui, parce que pas mal de ces bibliothèques ne sont plus accessibles aux visiteurs.
Mais les Pères du Saint-Esprit, la bibliothèque des Pères du Saint-Esprit, c'est toujours, c'est il y a.
Il y a, oui, mais ce n'est pas suffisant.
Oui. Nuline Pierre, tu as une dernière question.
Une dernière question. Matt, selon vous, quelle est la place de l'art haïtien sur la scène internationale?
Je vais être triste en répondant à cette question, car il me faut avouer. On ne parle plus d'art haïtien sur la scène internationale. Un artiste réussit parce qu'il est bon. il ne réussit pas parce qu'il est un peintre haïtien. Jusqu'en 1986, on pouvait parler d'un peintre haïtien. Maintenant, on ne parle plus d'un peintre haïtien. On prend un peintre comme Duval Carrier, c'est un peintre à grand succès, et bien c'est un peintre à succès. Après, en filigrane, on verra né en Haïti.
Il y a ce peintre
aussi. C'est comme Dubon, on va vous dire peintre américain né au Caire.
Il y a ce peintre aussi, comment il s'appelle déjà, qui vit en France, qui a exposé à Festival Arts dernièrement.
Beaucoup de peintres vivent en France et pas s'exposer.
Mais il y avait une exposition avec Ralph Allen, bon, j'ai oublié son nom, mais aussi il a eu un très bon parcours.
Oui, il est très Ralph, connu. Et c'est encore un peintre haïtien.
Robert Charles, on va devoir mettre un terme. Tu as une dernière question pour Matt?
Non, mais c'est donc remercier Marie-Alice d'avoir fait ce déplacement pour être là avec nous et de nous avoir supportés pour réaliser cette série d'émissions puisque vous serez quatre à participer à la série d'émissions de Livres Neufs qui commence aujourd'hui et qui prendra fin le 30 avec toutes les mars. Merci, Matt.
Alors, ce peintre, c'était Edzer Charles.
Oui, Edzer Charles, voilà. Oui. Et ce que je veux ajouter, c'est que c'est un plaisir immense de voir que des jeunes comme vous s'intéressent à la littérature forte, telle œuvre de Nadine Magloire. Et c'est aussi un plaisir émouvant de voir que vous pensez aux femmes d'abord. Et je vous remercie de m'avoir reçu.
Voilà, et nous sommes arrivés au terminus de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis et écoutés attentivement. Merci à Marie-Alice Théao qui avait répondu positivement à notre invitation. Merci Matt qui a débarqué à la radio avec toute sa famille. Isabelle, notre amie, puis aussi le docteur Jacques Ravix, hein, qu'on aura certainement à écouter une prochaine fois qui aura à intervenir à Livre Neuf. Isabelle, merci d'être venue. Je rappelle que cette émission est une courtoisie de la radio Magique Neuf et la revue Legs et Littérature. La mise en onde a été assurée par l'infatigable Willems Joseph, la présentation signée de Lemson Petit Frère, Myrline Pierre et Weber Scholl. Vous pouvez continuer à nous écrire et nous envoyer vos commentaires sur notre page Facebook. Allez, rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission de ce genre. Au revoir.
Sur le 100.9 FM.